Messieurs les commissaires, on va commencer ce matin par le salaire des dirigeants de sociétés d'État ou administrateurs. Là, il y a les deux cas, Éric Martel, président de Hydro-Québec, qui sera notre invité tantôt.
Qui s'en vient avec nous.
Oui, et également les hauts dirigeants de la Caisse de dépôt et de placement du Québec.
Le débat a été lancé cette semaine beaucoup par le Parti québécois qui a soulevé des questions en chambre d'abord sur la Caisse de dépôt. Quand j'entends ces questions-là, je m'interroge toujours à savoir... parce que les partis d'opposition, c'est assez... C'est comme une facile, là, tu dénonces les salaires, les augmentations de salaire. Qu'est-ce qu'ils feraient, eux, s'ils étaient élus? Là? Est-ce qu'ils défraient ça? Est-ce qu'ils seraient prêts à faire reculer ces gens-là sur le plan salarial, quitte à les perdre, quitte à perdre l'expertise dans la Caisse de dépôt? Toujours un peu sceptique, parce que le fait est que un gouvernement est toujours mal pris pour embaucher, dès qu'il crée des sociétés d'État ou la Caisse de dépôt. Tu sais, dans le fond, la Caisse de dépôt, ça rivalise avec qui? Ça rivalise avec les grosses autres sociétés privées qui gèrent des portefeuilles de placement énormes et tout ça. Puis les gens de la Caisse de dépôt ont excellente réputation, là, sont facilement recrutables par d'autres firmes qui font exactement la même chose. C'est évaluer des sociétés, évaluer des compagnies, puis dire, bon, on achète des actions de qui ou des placements dans quel domaine ou quel secteur économique va être en croissance. Là. Donc, des gens qui ont l'œil, le pif, l'instinct et la connaissance pour arriver à faire les meilleurs choix. Puis, tu sais, se priver de la meilleure ressource pour 40 000 $ de plus ou de moins de salaire quand un bon coup ou une gaffe peut te coûter un milliard ou deux.
Est-ce qu'il y a une baisse de salaire quand il y a des pertes comme celles qu'on a connues à la Caisse de dépôt et placement? Est-ce qu'il y a une baisse?
C'est-à-dire
qu'il
n'y avait pas de baisse. Il n'y avait pas de baisse. Ce qui avait été à ce moment-là un outrage, tu as raison de le souligner, c'est qu'ils avaient quand même eu leurs primes. Parce qu'à l'époque, les primes étaient au volume. Donc à la quantité de transactions que tu fais, même si elles sont mauvaises. Mon souvenir, c'est que l'événement auquel tu réfères, le 2008-2009, je pense que ça a amené une correction de la situation, là, par exemple, là-dessus.
Et est-ce que chez Bombardier, actuellement, il y a eu des baisses de salaire liées au fait que la compagnie allait mal, il me semble que non.
L'action a pris de la valeur.
Multiplié par 4 en 2 ans. Là.
Moi, je pense qu'il faut partir
grâce
d'un principe.
Grâce à nos investissements publics, peut-être, exact. Tu te diras. Là, mais...
fait que c'est ça. Hein. Il faut partir d'un... Moi, je pense qu'il faut établir une chose. On vit dans un système capitaliste, puis il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'autre système actuellement qui gère le monde. Mais très profondément, il y a une injustice fondamentale. C'est celle de l'accaparement de la richesse, quel que soit le pays, collective, par 1% ou peut-être moins que 1% du monde sur la planète. Ça, je pense, là, il faut dire, c'est une injustice totale. Non, il n'y en a pas, c'est injuste d'une façon totale.
Ben, la vie est injuste, là, je veux dire.
Pas la vie est injuste, c'est systèmes qu'on peut mettre en place, tu sais. Le capitalisme, c'est pas la nature qui a imposé ça, là, tu sais.
Oui.
C'est un système de pensée. Un système de pensée qui gère l'économie. À partir de ce principe-là, on est pogné dedans. Il y en a eu d'autres. Il y a eu le communisme, il y a encore le socialisme. Ça n'a pas donné tous les résultats qu'on aurait espérés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'accumulation de richesse dans le socialisme.
Non, mais qu'est-ce qui fait que des gens gagnent, mettons un million ou
10 millions?
C'est
pas ça la question. C'est pas que des gens gagnent plus que d'autres. C'est dans quelle mesure ils gagnent plus. C'est quel est le critère qui aurait du sens pour qu'il y ait des gens... Tu sais, je regardais, là...
Mais il y en a juste 34... un critère, c'est la rareté, là?
Pas juste la rareté.
Oui.
Principalement,
c'est
l'appartenance à une caste qui se protège. C'est beaucoup ça, souvent. Il y a des responsabilités.
Dans certains cas, mais ça ne dure pas longtemps. Généralement, là, ça finit par péter, ça.
Quand tu as 37 000 employés, mettons, à Hydro-Québec ou dans des... Tu sais, je peux comprendre que tu gagneras peut-être pas le même salaire qu'un de tes employés. Parce que c'est toi qui as la responsabilité de gérer un ensemble qui donne des profits. Quand tu donnes des milliards au gouvernement ou aux actionnaires, il y a une rétribution qui a une certaine logique. Le problème, c'est le ratio entre ta rétribution puis celle des conditions de salaire de l'ensemble des...
C'est un critère qui ne tient pas. Je veux dire, c'est la loi de l'offre et de la demande. Je veux dire, la rareté...
Va-t'en, toi, c'est ça qu'on accepte. On accepte que ce soit l'offre et de la demande comme si c'était un principe éternel. Dieu existe, donc prosternons-nous.
Dis-moi en vertu de quoi. Mettons Éric Martel. Moi, je considère, en passant, je sais que dans les organisations publiques, c'est pas important, là. Mais moi, je pense qu'il est excellent. Là. Mais ça, je sais que...
Ben oui, il y a...
des organisations publiques, c'est quelque chose qu'on regarde pas.
On parle
là,
pas bon. D'Éric Martel. On parle d'un ratio qui serait pas basé juste sur celui que tu décris comme étant l'offre et la demande.
Toi, tu vas interdire à une autre compagnie d'y faire une offre, de dire, ben nous, ce gars-là, on pense qu'il est bon, on va y offrir 1 million.
On pourrait avoir des principes qui sont basés sur au moins un certain nombre de choses. Un ratio qui est raisonnable sur le nombre de...
Excuse-moi, là, si ce ratio-là, il n'y a pas rapport. Quelqu'un d'autre le veut. Carey Price, là, ça veut dire que ça a été une gaffe parce qu'on s'est rendu compte qu'il était peut-être pas si bon que ça, là, mais pourquoi on lui a donné ça? C'est parce qu'on s'est dit, si le Canadien, il donne pas, là, on pense que, je sais pas qui, là, les Panthers de la Floride ou les Stars de Dallas vont se lever et vont dire, nous, on le veut, Carey Price, puis on lui donnerait ce montant-là.
Mais je vais...
C'est l'offre et la demande. C'est,
toi,
c'est
le fatalisme économique.
Non, c'est la réalité.
La jungle est là, il y en a un qui est plus gros et qui est plus fort. Faut accepter
tout
le monde.
Non, c'est que t'es le meilleur dans ton domaine. À un moment donné, tu deviens un des meilleurs dans ton domaine.
Domaine, t'es meilleur dans ton domaine. Tu perds des milliards, puis t'es le meilleur dans ton domaine.
Si tu perds des milliards, tu vas t'en aller à ta retraite
avec... Tu vas avoir gagné des milliards, des millions, puis tu t'en vas à ta retraite, puis t'es gras dur, puis t'as fait perdre, et t'as coupé je sais pas combien d'emplois, t'as rationalisé, t'as détruit des conditions de salaire de
en rationalisant,
il y a du monde qui crève de faim, puis on est supposé tout accepter
ça. En rationalisant, t'as peut-être sauvé un business.
On parle pas en même temps, peut-être.
Non, mais je vous laisse aller, là.
Non, mais
c'est parce que je veux pas être interprété comme étant un espèce de rêveur absolu. Je me dis, y a-tu des ratios qui soient applicables, qui seraient raisonnables? Que quelqu'un gagne plus qu'un autre, le critère, par exemple, tu génères des profits, est-ce qu'il y a une partie de ces profits-là qui devrait te revenir?
Mais prenons Céline Dion, OK? Ouais. Sa fortune, qui est colossale, a été bâtie sur quoi? Sur le fait qu'elle vendait des disques, des billets de spectacle, bref, qu'à chaque billet et à chaque disque, elle faisait de l'argent. Vas-tu lui enlever ça?
Non,
plus avant disque, puis ça, plus avant billet. Puis...
Mais je peux pas donc questionner le fait que pour une Céline Dion, il y a quelques milliers de gens qui n'arrivent plus à toucher un revenu raisonnable à partir de leurs chansons. Donc, il y a un système, là, le fameux système de l'offre et de la demande, qui nous échappe complètement. Ce système-là nous échappe complètement et il y a des gens qui travaillent pour rien.
Mais dans ça, tu vois, je suis avec toi. Non, dans le sens que...
Ben, t'es avec moi.
Non, dans le sens qu'il y a des moments où, effectivement, dans ce cas-là, la technologie, le modèle économique, tu dis, oups, là, il y a des gens, le créateur d'une chanson reçoit plus ce qui est nécessaire.
C'est fabuleux, tu reconnais qu'il peut y avoir des injustices dans un système d'offre et de demande.
Je reconnais tout à fait qu'il peut y avoir des injustices. Par contre, quand tu m'arrives à me dire le ratio entre un joueur de soccer, un joueur de baseball, un joueur de hockey, un président de compagnie et les employés, je suis obligé de te dire, garde. L'employé, là, je te jure là, que n'importe quel employé soudain, s'il fait de quoi d'exceptionnel, s'il devient le meilleur au monde, que les compagnies se l'arrachent, que tout le monde veut l'avoir, son salaire va monter. Là. Je veux dire, c'est vrai dans tous les domaines. À un moment donné, personne ne vole. Là. Quelqu'un est prêt à payer un salaire à un PDG. Puis là, tu me dis, ouais, mais le PDG, finalement, maintenant, il perd des millions. Je peux te dire une chose, les PDG qui scrapent la compagnie, là, sont mis dehors l'année d'après. Effectivement, le fait qu'ils aient été PDG
puis
pendant...
Puis les parachutes dorés, c'est-tu moi qui ai inventé ça ou que ça existe pas?
Probablement qu'il y en a certains qui réussissent à créer l'illusion qui était meilleure, mais c'est vrai dans le sport aussi. Là. Un sportif va créer l'illusion qui est meilleure qu'il était, puis il va signer le gros contrat.
Il va signer le gros contrat, mais on va être déçu l'année d'après. Regarde du côté, ce qui se passe du côté du tennis, par exemple. Tennis, c'est un sport qui génère de plus en plus de profits. Il y a quelques multimillionnaires, mais la majorité des joueurs sont là, qui se promènent un peu partout sur la planète, puis ils disent, ouais, mais nous autres, on n'a pas de retombées des profits extrêmement importants que génère cette industrie-là. Et c'est la même chose dans bien des domaines. Et le résultat, le prix des billets, lui, augmente sans arrêt. Combien ça coûte aller voir le Canadien? Tu sais, je veux bien que ça coûte...
Il n'y a pas de place libre, il doit y avoir quelqu'un qui est prêt à payer. C'est pas de l'injustice, c'est ça, mais là, tu vois, le Canadien...
C'est la loi de la nature, c'est ça que tu dis, toi. C'est la loi de la nature.
C'est la loi, c'est dans un monde libre où on choisit... Tu sais, là, cette année, on a des places libres. Le Canadien nous offre un spectacle que je commenterai pas, là. Ça, tu vois, des bancs libres.
Ah, et je vais donner deux exemples qui est dans le sport. Là. Il y a deux joueurs qui ont été, plus que ça, mais deux joueurs vedettes qui ont été, je dirais, sous-payés par le Canadien. Maurice Richard puis Guy Lafleur. Moi, j'ai interviewé les deux. Mm-hmm. Et... Maurice Richard m'avait dit à l'époque, là, quand on parlait de salaire, évidemment, c'était pas trop public, puis c'était moins qu'aujourd'hui. Mais les gens auraient été scandalisés par le salaire que je gagnais comme joueur. C'est sûr, parce que c'est plus que le salaire d'un ouvrier, puis c'est plus que n'importe qui.
Oui.
Mais ils auraient été outrés encore plus s'ils avaient su combien d'argent ils faisaient avec moi, le Canadien. La Fleur a été sous-payée par les Canadiens par rapport à des joueurs qui évoluaient sur des marchés aux États-Unis. Puis La Fleur était la vedette, le joueur. C'était un gars
qui... Il remplissait le forum. Là.
Il remplissait le forum, puis ce gars-là était le joueur de concession.
Exact.
Il s'est fait fourrer par le Canadien.
Bien, c'est ça. C'est ce que je veux dire, puis c'est la seule chose que je dis. Je dis pas que les gens sont trop payés. Comme M. Martel, est-ce qu'il est trop payé ou pas trop payé? Pas sûr, parce qu'il y a des responsabilités énormes, puis il génère des revenus pour la collectivité. Je dis que dans ces systèmes-là, il y a des injustices qui sont réelles. Puis quand on fait semblant que ça n'existe pas, un mouvement Desjardins, ça, à l'origine, c'est un mouvement coopératif. Actuellement, le système de rémunération qui commence à être drôlement important. Alors, quand tu penses à l'origine puis à ce que c'est devenu, moi, je me pose des questions. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver des façons, à tout le moins, de contrôler des hausses exagérées que tout le monde dénonce quand on les voit publier dans les journaux?
Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que le mari de Michael Jean a au moins un chauffeur payé par la francophonie.
Je peux pas croire.
Ça me fait plaisir.
Non, mais c'est...
C'est injuste, parce qu'il n'y a pas d'offre et de demande dans le cas de Michael.
C'est pas injuste, c'est farfelu. Là. C'est pas pareil. Là.
Au retour de la pause, M. Trump qui compte des petites fake news à Justin Trudeau.
Oui.
Beau bonhomme, a-t-il dit. Hein?
Ouais.
Nice guy.
Gentil.
Parfait.
Nice guy.
Le pont Champlain.